Nous allons terminer, si vous voulez, aujourd'hui cette question première. Je ne veux pas m'attarder trop sur cette question, sur laquelle il y a eu des quantités de discussions. Elle est importante, elle est comme, je crois, comprenons bien, une question de réflexion critique, mais quand je dis critique, c'est-à-dire de sagesse, sur le mystère de l'incarnation et de la rédemption. Alors, si nous avons le temps, nous y reviendrons au terme. J'aimerais mieux ça que de m'attarder trop. Vous voyez ? Il faudrait une question disputée. Il faudrait qu'on puisse ensemble entrer dans le vif du sujet. Ce que nous faisons ici, moi j'essaie de comprendre ici saint Thomas, la position de saint Thomas. La position qui s'est mise après n'est plus tout à fait dans le sens de saint Thomas. Vous voyez ? Quand on dit du reste motif de l'incarnation, saint Thomas ne se place pas comme motif de l'incarnation. Il met les harmonies, les convenances de l'incarnation. Donc on est dans une vision de sagesse. Et une vision un peu critique. Critique dans le sens théologique, c'est-à-dire le théologien se demande, étant donné le mystère de l'incarnation, étant donné la révélation sur le mystère de l'incarnation, est-ce que nous pouvons préciser, dans l'ordre de la sagesse de Dieu, un ordre ? Est-ce que le mystère de l'incarnation est premièrement en vue de la glorification du Père ? Est-ce que le mystère de l'incarnation est premièrement en vue du salut des hommes ? Est-ce que le mystère de l'incarnation est premièrement pour la satisfaction ? Est-ce que le mystère... Et ainsi de suite. Vous voyez ? Donc ça présuppose connu tout le mystère de l'incarnation, autant qu'on peut le savoir. Vous voyez ? Alors, c'est pour ça que je vois simplement... Mais continuez d'y réfléchir entre vous, hein, et de disputer entre vous. Très bien. Plus vous disputerez là-dessus, plus ce sera clair. Alors, c'est bien. Alors, je crois qu'on était resté à la question 5, et je vous avais dit, il n'y avait plus que deux questions, on va aller rapidement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, c'est même très intéressant, ces deux questions. Convenait-il que Dieu s'incarna dès le commencement du monde ? Oui, alors là, je commence les hypothèses. Hein ? C'est les hypothèses. Parce que jusque-là, à la rigueur, on pourrait dire que ce n'est pas les hypothèses, bien que l'article 4, déjà, motif principal de l'incarnation, est-ce que Dieu, principalement, fut et celui qui vient réparer le péché originel plus que le péché actuel ? Ce n'est pas une hypothèse, hein ? À l'intérieur du mystère de l'incarnation, qu'est-ce qui a mû en premier lieu l'intention du cœur du Christ ? Celui qui est l'agneau de Dieu, porte-t-il en premier lieu l'iniquité du monde ou porte-t-il en premier lieu les péchés personnels ? Donc là, nous creusons dans le mystère de l'intention qui anime le cœur de Jésus. Et l'intention qui anime le cœur du Christ... C'est, puisque le Christ ne veut faire que la volonté du Père, et qu'il est animé toujours, donc il nous révèle cette intention du Père, cette volonté du Père, que lui seul connaît parfaitement. Alors, c'est creuser, vous voyez, dans le cœur de Jésus, l'intention profonde qui l'anime quand il obéit pour réaliser le mystère de la croix. Tandis qu'ici, nous sommes là, très nettement dans les hypothèses. Donc on peut aller très vite, la question de 5 et 6. Hein. Je vais aller vite avec vous, puisque ça n'a pas... C'est un intérêt secondaire. Alors je prends tout de suite la première objection. L'œuvre de l'incarnation provient de l'immense amour de Dieu, selon cette parole de l'apôtre. Dieu, dans la richesse de sa miséricorde, et poussé par la grande charité dont il nous a aimés, alors que nous étions morts du fait de nos chutes, nous a rendu la vie avec le Christ. Mais l'amour se porte sans retard au secours de l'ami. Donc c'est la hâte de l'amour. Et c'est vrai, la hâte de l'amour que vous voyez dans le second récit de la Genèse, hein, que vous voyez dans le mystère de la visitation. Cette hâte dans le cœur de Marie, cette hâte qui nous est montrée dans la sagesse de Dieu au point de vue de la création, elle doit être encore beaucoup plus grande quand il s'agit du mystère de la rédemption. Pourquoi Dieu a-t-il tant lambiné? Puisqu'au fond, dès le péché, il sait bien toutes les conséquences du péché. Pourquoi c'est pas venu tout de suite après? Et je comprends très bien. Hein. Dans notre vie, nous sentons ça très bien. Pourquoi Dieu, de temps en temps, a l'air de lambiner tellement nous supplions qu'il convertisse notre cœur? Puis notre cœur, il reste... Et nous mettons du temps à nous convertir, alors que nous le supplions, et nous demandons à Dieu, et qu'autour de nous, tous ceux qui sont autour de nous disent « Oh, pourvu qu'ils se convertissent, pourvu qu'ils se convertissent, et ils ne se convertissent pas encore, et pourtant nous avons tellement prié. Hein » On voit très bien, ça c'est très très joli comme première objection. C'est une objection que nous portons en nous. Et alors, on voit que de facto, Dieu ne s'est pas tout de suite porté au secours de l'homme. C'est invraisemblable. C'est contraire, voyez, au premier motif, Dieu est souverainement bon, donc il se communique le plus. S'il se communique le plus, il doit se communiquer selon le temps le plus vite possible. L'impatience. L'impatience de Jeanne, hein, voyez, l'impatience de tous les mystiques, l'impatience de tous ceux qui portent « Que deviendront les pécheurs, Saint-Dominique ?» Il y a une impatience de l'apôtre et du mystique. Et Dieu n'a pas l'air d'être impatient. La patience des saints. Ici, selon l'Apocalypse, ici la patience des saints. Et la patience des saints, elle est à bonne école, puisque Dieu a mis si longtemps avant de répondre. Cependant, saint Paul écrit aux Galates, c'est la réponse, hein, « Quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils né d'une femme. » Et la glose explique qu'il faut entendre par plénitude des temps l'époque fixée à l'avance par Dieu, où il devait envoyer son Fils. Or Dieu fait tout avec sagesse, le temps choisi par lui pour l'incarnation était donc tout à fait opportun. Il ne convenait pas par suite que le Christ s'incarnât au commencement du monde. Voyez l'opposition entre le commencement du monde et la plénitude des temps. Ça c'est très très joli. Il y a les commencements et la plénitude du temps. Il y a l'acmé divin. Il y a un sommet divin. Et puis il y a le commencement. Alors voyez ce que le philosophe et le théologien doivent toujours comprendre. Hein, l'ordre génétique et l'ordre de perfection. C'est curieux qu'on retrouve ça tout le temps. L'ordre génétique, c'est le commencement, à partir du commencement. Donc on va de l'imparfait vers le parfait. Ça, c'est pour nous, hein. C'est pour nous, cet ordre génétique. Et puis, l'ordre de perfection, on va du parfait. C'est le parfait qui commande tout. Et c'est dans la lumière du parfait. Plénitude des temps. Plénitude des temps, c'est la perfection. Et le commencement. Donc, vous retrouvez cette espèce de chose, cette opposition qui est tout à fait normale pour nous, qui est une division. Une division que le philosophe fait au niveau humain. Au niveau humain, vous devez toujours distinguer les deux. Vous voyez l'ordre génétique de l'imparfait vers le parfait. Mais est-ce que cet ordre-là, on a la sagesse de Dieu? C'est humain, ça. Est-ce que vous ne projetez pas ça sur la sagesse de Dieu? Est-ce que Dieu, dans sa sagesse, il n'y a pas les deux ordres dans la sagesse de Dieu? Vous voyez, toute la difficulté est là. Toute la difficulté est là. Est-ce que je peux projeter sur la sagesse de Dieu ce point de vue d'un ordre génétique et d'un ordre de perfection? Ou est-ce que quand il s'agit de la sagesse de Dieu, je suis en face d'un ordre d'amour et que cet ordre d'amour, lui, télescope tout? C'est au fond la grande question. Je vous dis, c'est la question constante que tous les saints ressentent très fort. Au plus intime d'eux-mêmes, est-ce que dans le cœur du Christ, puisque nous avons toujours voir les deux, est-ce que dans le cœur du Christ, il n'y a pas eu caritas urget nos? Donc la charité, ça nous brûle. Donc ça fait télescoper leur génétique. Il y a des gens qui ne peuvent pas accepter que des imperfections, toujours ces imperfections, ce qu'ils sont imparfaits, ces novices, hein, d'une imperfection forte. Est-ce qu'ils ne pourraient pas avoir un tout petit peu plus d'amour? Alors, saint Thomas nous dit ça. l'œuvre de l'incarnation est principalement ordonnée au relèvement du genre humain par la suppression du péché. Opus, opus incarnationis, principaliter ordinatur. Vous voyez, alors, le principaliter ordinatur, saint Thomas montre, et là, il a opté. Hein. Vous savez bien, dans la question, il a dit, oui, j'opte pour cette question. Mais, évidemment, je ne peux pas rejeter l'autre. Et quand il s'agit alors de comprendre comment l'incarnation, l'œuvre de l'incarnation s'est faite à tel moment plutôt qu'à tel autre moment, qu'est-ce que saint Thomas reprend ? C'est intéressant, parce qu'on voit très bien là la manière dont il va expliquer ça. L'œuvre de l'incarnation est principalement ordonnée au relèvement du genre humain par la suppression du péché. En conséquence, il ne convenait pas que Dieu se fît homme dès le principe et avant le péché. Si l'incarnation était ordonnée premièrement pour la gloire du Père, principalitaire, l'argument ne porterait pas. Et vous ne pourriez pas expliquer pourquoi l'incarnation est arrivée à la plénitude des temps. Vous voyez ? C'est intéressant parce que ça montre ici comment saint Thomas va. Concrètement, de facto, c'est comme ça que ça s'est passé. Il s'agit, au point de vue du théologien, d'expliquer ce de facto. L'incarnation n'a pas eu lieu dès le commencement. Ben, Dieu n'a pas oublié. Je ne peux pas dire Dieu a oublié. C'est impossible. Donc, je dois expliquer pourquoi Dieu a-t-il attendu la plénitude des temps. Et la plénitude des temps, c'est marqué justement par le mystère même de la venue du Christ. Donc, les deux se coïncident. Alors, pourquoi ce point de vue ? En conséquence, il ne convenait pas que Dieu se fît dès le principe et avant, se fît homme dès le principe et avant le péché. On ne donne en effet de remède qu'à ceux qui sont déjà malades. Selon cette parole du Seigneur, ce ne sont point les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Donc, première raison, hein. C'était nécessairement après le péché. Ça ne pouvait pas être dès le début. De plus, même après la chute, seconde raison, il n'était pas décent, opportun, que Dieu s'incarna aussitôt. Alors voilà les raisons. Alors tout ça, toutes ces raisons-là, vous voyez, sont prises dans la perspective que l'incarnation est venue principalitaire. Alors retenez bien le principalitaire ordinatur. Elle est ordonnée en premier lieu vers le point de vue du rachat, du relèvement du pécheur. D'abord, en raison même du péché, dont la source est l'orgueil. Il fallait que l'homme, pour être sauvé, s'humiliât et reconnût la nécessité d'un libérateur. Ça, c'est une raison, on dirait, psychologique. Hein ? La psychologie du pécheur. Quand il s'agit du pécheur, on est au niveau psychologique. Hein ? On n'est plus au niveau de la finalité. Donc on est au niveau du conditionnement de l'homme. L'orgueilleux ne connaît pas de finalité. Oui, il connaît sa finalité, mais qui est une fausse finalité. Donc, en réalité, c'est le conditionnement qui prime. C'est pour ça que la psychologie n'est vraie que dans la mesure où elle regarde le pécheur et le malade. C'est bien évident. C'est toujours la psychologie du malade, du pécheur. Plus vous êtes malade, plus vous êtes pécheur, plus vous vivez au niveau psychologique. Plus vous êtes sain, moins vous vivez au niveau psychologique. C'est sûr. C'est pour ça que Jésus, qui est le saint, ne vit jamais au niveau psychologique. Jamais. Jésus ne s'est jamais tâté le pouls pour savoir où il en était. Non, jamais. C'est impossible, c'est absolument impossible. Parce qu'il vivait pour accomplir la volonté du Père. Donc, il vivait comme un saint, comme le saint, qui vivait toujours à ce niveau-là. Ça, c'est très important parce que c'est ce qui nous fait ici comprendre les raisonnements que nous donne saint Thomas. D'abord, donc, en raison même du péché, dont la source est l'orgueil, il fallait que l'homme, pour être sauvé, s'humiliât et reconnût la nécessité d'un libérateur. Et c'est ce que la glose explique en commentant cette parole de l'Épître aux Galates. La loi a été établie par des anges avec l'aide d'un médiateur. C'est dans un dessein magnifique que Dieu, après la chute de l'homme, n'a pas aussitôt envoyé son fils. Il laissa l'homme tout d'abord à son libre arbitre, afin que, dans la loi naturelle, il fît l'expérience de ses propres forces. Puis, quand l'homme vint à déchoir, il lui donna la loi. Le mal alors augmenta, non du fait de la loi, mais à cause de la nature viciée. Hein ? La dialectique du péché, ça dégringole. Et Dieu le permit en vue d'obliger l'homme à faire appel au médecin et à rechercher le secours de la grâce. Vous voyez, la pédagogie divine, si j'ose dire, ça c'est très très important. La pédagogie de Dieu par rapport à l'homme, par rapport à l'homme pécheur. Dieu veut que l'homme prenne conscience de sa précarité, de ses limites. Il veut que l'homme prenne conscience qu'il ne peut pas par lui-même s'en tirer. Et c'est pour ça qu'il a laissé l'homme si longtemps dans sa détresse. C'est extraordinaire ça. Et c'est pas contraire à la miséricorde. Hein. C'est la sagesse miséricordieuse de Dieu. Ça, c'est une chose très belle. Et parce que le péché est un péché d'orgueil. Et que l'orgueilleux croit toujours qu'il pourra s'en tirer lui-même. Vous voyez ? Briser ce qu'on appellerait l'humanisme intégral. Hein ? Vous voyez bien. C'est briser ça. Montrer que l'homme ne peut pas s'en tirer par lui-même. Et que l'homme est obligé de faire appel à quelqu'un qui n'est plus lui. Et qui est Dieu. Un secours divin. Que l'homme prenne pleinement conscience de ça. Ça, c'est très très fort, parce que ça montre que la miséricorde regarde l'autre. Et que l'autre doit recevoir en plénitude la miséricorde. Vous ne pouvez recevoir la miséricorde que dans la mesure où vous avez conscience de votre pauvreté. Plus on a conscience de sa pauvreté, donc de sa faiblesse, de sa fragilité, plus on appelle au secours. Et en appelant au secours, on peut coopérer à la miséricorde. La miséricorde, c'est un geste qui se fait à deux et qui ne peut se faire qu'avec le pauvre. Alors on pourrait dire, vous voyez, c'est la grande raison, ça c'est très très fort, l'orgueil c'est juste l'opposé de la pauvreté. Il faut que l'orgueilleux devienne un pauvre, devienne humble, qu'il devienne homme, c'est-à-dire qu'il s'aperçoive qu'il ne peut pas s'en tirer par lui-même, donc qu'il devienne vraiment un mendiant, pour que l'œuvre de la rédemption puisse être reçue pleinement. En second lieu, l'ordre du progrès dans le bien exige que l'on aille de l'imparfait au parfait, donc il reprend l'ordre génétique. Et la première raison n'est plus tout à fait ce point de vue-là. C'est plus le point de vue du philosophe, hein, c'est pas le point de vue de la génétique de l'imparfait vers le parfait. C'est une raison plus profonde. C'est le point de vue de l'orgueil. L'orgueil refuse le secours d'un autre. Il faut donc que l'orgueilleux, petit à petit, comprenne sa limite, son incapacité de se redresser lui-même. La seconde raison, elle est différente. C'est le point de vue de l'ordre de l'imparfait vers le parfait. En second lieu, l'ordre du progrès dans le bien exige que l'on aille de l'imparfait au parfait. De là cette parole de l'apôtre, ce n'est pas le spirituel qui paraît d'abord, c'est l'animal. Le spirituel ne vient qu'après. Le premier homme qui vient de la terre est terrestre. Le second homme, lui, vient du ciel. Il convenait aussi, donc troisième, la seconde raison, c'est l'ordre génétique. L'ordre de la nature humaine. La nature humaine implique un progrès. Et Dieu tient compte de ce progrès de la nature humaine. Troisième raison, il convenait aussi à la dignité du Verbe incarné de ne pas venir en ce monde dès le principe. Car ainsi que le note la glose à propos du texte « Quand vient la plénitude des temps », plus le juge à venir était auguste, plus devait être longue la série des prophètes qui le précédaient. Donc c'est la série des alliances. Pourquoi la série des alliances ? Vous voyez, au fond, elle est très proche de la seconde raison. de l'imparfait vers le parfait. Et alors, c'est ce point de vue-là, puisque on doit aller vers un terme si parfait. Alors ici, on ne part pas de l'imparfait, on voit du parfait. La dignité du terme est telle qu'elle exige une longue préparation. Enfin, il ne fallait pas que la ferveur de la foi s'attiédît au cours trop prolongé des siècles, car à la fin du monde, la charité de beaucoup se refroidira. Il est écrit dans Saint Luc, « Quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouve encore de la foi sur la terre ?» Donc, il ne fallait pas atteindre la fin. Il fallait donc que ce soit la plénitude des temps, l'acmé. Oui, les deux raisons qui luttent. Hein. Alors évidemment, vous pouvez dire tout ça après coup. Vous ne pourriez pas dire ça avant. Mais c'est intéressant de voir comment ça te... Ce sont des raisons, c'est pas du tout quelque chose qui s'impose mathématiquement. Pas du tout. Dans l'ordre de la sagesse de Dieu, puisque je vois que l'incarnation est principalitaire, d'une façon très première, ordonnée au salut de l'homme. Ça, c'est très très beau qu'on prenne sa raison pour comprendre à quel moment l'incarnation devait se faire. On voit que l'incarnation ne pouvait pas se faire au terme, et on pressent l'article précédent, comme presque toujours fait saint Thomas, un article appelle un autre article, non pas la fin non plus. Donc, à la plénitude des temps. Et c'est pour expliquer cette plénitude des temps. Cette plénitude des temps, c'est ni le commencement ni la fin. Nous ne sommes pas la plénitude des temps. Je ne dis pas qu'on est dans la... Vous voyez, on est un sommet, plutôt, puis alors après, hein, la dégringolade. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a quelque chose comme ça. La plénitude des temps, c'est le moment où le Christ est arrivé. C'est la plénitude des temps. Il y a eu à ce moment-là une espèce de grandeur de l'humanité unique pour la venue du Christ. Alors nous voyons très bien ça dans le cœur de Marie. Le mystère de l'Immaculée Conception, c'est l'aurore de la plénitude des temps. Et c'est bien l'aurore de la plénitude des temps. C'est l'annonce que quelque chose doit arriver et qui atteint un sommet. Oui. Alors je crois que ces raisons que donne saint Thomas, ce sont des raisons, vous voyez, d'ordre de la sagesse. Comment, de fait, nous pouvons essayer de comprendre, ayant vu que l'incarnation arrivait principalement pour réparer la faute, pour sauver les hommes. C'est en raison de cela que nous pouvons comprendre qu'il ne vient pas au commencement et qu'il arrive à la plénitude des temps. Je vois tout de suite alors la réponse à la première objection. L'amour se porte, c'est intéressant puisque c'est tout le point de vue. Vous voyez, ce sont des choses qui sont d'ordre beaucoup plus psychologique puisqu'elles sont dans le temps. Ce n'est plus uniquement la finalité. Hein. Donc c'est tout le conditionnement du temps. Donc dès qu'il y a le conditionnement du temps, nous sommes beaucoup plus dans une perspective psychologique. Comme on dirait aujourd'hui, la psychologie, c'est le point de vue justement du conditionnement du temps. Et nous sommes dans le conditionnement du temps. Et on voit très bien que ces argumentations que donne saint Thomas n'ont pas du tout la même rigueur. C'est tout à fait différent. C'est du plus et du moins. Donc on n'est pas dans une rigueur absolue. Alors c'est intéressant la réponse. L'amour se porte sans tarder au secours de l'ami, mais en tenant compte de l'opportunité des circonstances et de la condition des personnes. Oui, c'est très très important. Autrement, vous allez faire un faux pas. Il y a des amis qui se portent avec une telle avidité sur l'ami qu'ils les étouffent en voulant les aimer. Mais non, c'est pas ça. C'est comme une mère trop empressée vis-à-vis de ses enfants, alors qu'il l'étouffe. Laissez-lui un tout petit peu d'oxygène. Hein. Soyez pas là pour l'accabler de votre amour, parce que vous l'étouffez. Ça, c'est la hâte de l'amour, oui, mais mal comprise, voyez, passionnelle. Et non pas selon la sagesse. On comprend ça très bien. Si, justement, le médecin appliquait certains remèdes aux malades dès le principe de la maladie, ceux-ci seraient moins efficaces, peut-être même plus nuisibles qu'utiles. C'est pour ça que Dieu a laissé que la maladie prenait certains de ses effets pour que la médication puisse être plus utile. C'est très, très curieux, ça. C'est extraordinaire. C'est très homéopathique, ça. Mais c'est comme Dieu. C'est tout à fait le point de vue de l'amour, homéopathiquement. Il ne faut pas trop vite. Laissez. Il faut tester un petit peu. Ici, la patience des saints, c'est très important, ça. Quand vous voyez dans la cinquième trompette, hein, c'est ça. Là, on est dans l'ordre des exécutions, dans l'ordre aussi du conditionnement, les trompettes. Eh bien, c'est très net. C'est la patience des saints. On voit que les uns veulent tout de suite, Seigneur, exercer votre justice. Il y a beaucoup trop d'injustices dans le monde. Vous devez venir avec votre glaive et puis exercer la justice immédiatement. Séparer les bons des mauvais. Il y a des gens comme ça. Ils ont cette mentalité-là. Ils veulent tout de suite le glaive, immédiatement. Et Dieu dit non, patience. C'est ça. L'amour s'exerce avec hâte, mais une hâte à l'intérieur d'une sagesse. Et non pas une hâte passionnelle qui fait que on veut immédiatement se donner et alors en faisant ça, on étouffe, on brise, on fait quelque chose qui est plus nuisible. Dieu n'a pas donné tout de suite au genre humain le remède de l'incarnation, de peur que l'homme, orgueilleux et ignorant de sa faiblesse, ne le mésestime. Donc il a fallu d'abord que l'homme comprenne sa misère. Et une véritable éducation, c'est ça qui est très difficile, parce que pour nous, humainement, vous comprenez, c'est très difficile de savoir jusqu'où on peut aller. Laisser quelqu'un dans sa misère pour qu'il comprenne. Oui, mais à un moment donné, peut-être, hein, il va se noyer. Et on ne pourra plus le rattraper. Il va tomber tellement bas. Et pourtant, il faut. Et c'est encore miséricordieux. C'est encore une grande miséricorde, parce que c'est le respect de l'autre. Non, pour qu'il puisse comprendre. Parce que si vous intervenez trop vite, trop dirigiste, vous voyez, il y a des gens qui sont d'un dirigisme effrayant. Ils se précipitent au nom de l'amour. Mais non. Ce dirigisme effrayant au nom de l'amour est dangereux parce qu'il empêche le développement. Il empêche que l'homme comprenne. Vous savez, des principes de pédagogie divine hein, qui sont extraordinaires ici. Ça, c'est intéressant à voir sous ce point de vue-là. Parce qu'on voit bien que il ne faut pas simplifier. On a affaire à un être complexe qui est l'homme. Et donc ne prenez pas qu'un seul aspect. Si vous prenez qu'un seul aspect, c'est une simplification qui empêche l'ordre de la sagesse. Alors, deuxième objection. Saint Paul écrit à Timothée, « Le Christ est venu en ce monde sauver les pécheurs, mais ceux-ci eussent été sauvés en bien plus grand nombre si dès le commencement du monde, Dieu se fût incarné. Au cours des siècles, en effet, beaucoup, par leur ignorance de Dieu, sont morts dans leurs péchés. » Je m'excuse. Non, vous savez, c'est mes yeux qui baissent, alors c'est la question de vieillesse. Et alors, dès qu'on est fatigué, ça se porte sur les yeux. Réponse. Saint Augustin donne tout d'abord cette réponse dans l'un de ses ouvrages. Le Christ a voulu apparaître aux hommes et leur prêcher sa doctrine dans le temps et dans le lieu où il savait que se trouveraient ceux qui devaient croire en lui. Il prévoyait en effet que lui présent et malgré ses miracles, un grand nombre refuserait de croire en lui et à sa prédication. Revenant sur ce sujet, dans un autre ouvrage, saint Augustin se rétracte. « Pouvons-nous dire, écrit-il, que les habitants de Tyr et de Sidon n'auraient pas voulu croire si de tels miracles avaient été accomplis parmi eux, alors que d'autre part le Seigneur nous affirme qu'ils se seraient grandement humiliés et auraient fait pénitence ? Aussi, comme le dit l'apôtre, il ne s'agit ni de vouloir, ni de courir, mais que Dieu fasse miséricorde. » C'est la rétractation, ça. Dieu sait, en effet, ceux qui croiraient à ces miracles, s'il en était les témoins. Il vient en aide aux uns, parce qu'il le veut. Il ne vient pas en aide aux autres, parce que, dans ses desseins cachés, mais justes, il en a jugé autrement. Croyons donc, sans hésiter, à sa miséricorde envers ceux qu'il sauve, à sa justice envers ceux qu'il punit. Donc, vous voyez, saint Augustin, ici, que c'est quand même difficile de scruter les desseins de Dieu. Hein. Nous pouvons constater que Dieu a fait ça sûrement par une très grande miséricorde. Pourquoi ? Parce que le motif de l'incarnation, c'est la l'ordre principal, principalitaire. L'incarnation est ordonnée à la miséricorde. Donc, tout doit être vu dans la miséricorde. Et nous devons essayer de comprendre. Alors ça, c'est un très très beau principe, voyez, pour la théologie de l'économie divine. Dès que je regarde l'économie divine, quelle est la grande lumière ? La miséricorde. Là, je suis sûr de ne pas me tromper. Tout a été fait pour la plus grande des miséricordes. Je crois que c'est ça que saint Augustin veut nous signaler. Hein. Parce que ça, c'est quand même très très important. Parce qu'autrement, on pourrait rigoter indéfiniment. Hein. Au point de vue de la logique, c'est bien évident, pour en trouver toujours des motifs. Alors, c'est vrai pour l'histoire de l'humanité, et c'est vrai pour nous. Quand on dit, hein, habituellement, Dieu écrit droit avec des lignes zigzagantes, hein, et Dieu écrit droit, la miséricorde de Dieu écrit droit. C'est la miséricorde de Dieu, alors qu'il laisse des moments de silence. Il y a des moments où Dieu intervient. Et jugé de l'extérieur, on n'y comprend rien du tout. Pourquoi Dieu laisse-t-il quelquefois certaines fragilités, certaines faiblesses, certaines obscurités, certains brouillards qui ne se lèvent même pas le soir ? Jusqu'à midi, ça se comprend. Mais jusqu'au soir, non. Pourquoi ? Puis tout d'un coup, le beau ciel. C'est mystérieux, ça. On ne peut pas chercher des raisons. La seule chose qu'on peut faire, c'est celle-là, les rétractations de saint Augustin. Et ça, je trouve ça très beau, que saint Thomas prenne ce texte-là pour nous faire comprendre qu'on est devant un ordre de miséricorde. Alors, troisième objection, l'ordre de la grâce n'est pas moins achevé que l'ordre de la nature. Or, dans l'ordre de la nature, c'est toujours le parfait qui est au principe. Il devra donc en être ainsi dans l'ordre de la grâce. Mais d'autre part, c'est dans l'incarnation que la grâce se trouve réalisée en perfection, car le Verbe s'est fait chair, dit saint Jean. Il était plein de grâce et de vérité. Le Christ a dû par conséquent s'incarner aux premières heures de l'existence de l'humain, du genre humain. Parce que quand il s'agit de la grâce, on n'est plus dans l'ordre de l'imperfection vers le parfait. Hein? Donc, la négation de ça, une des raisons qu'a pris saint Thomas. Et saint Thomas rejette ça. Nous sommes dans l'ordre de la grâce. Or, dans l'ordre de la grâce, Dieu commence toujours par ce qui est parfait. Il a pris Abraham, père des croyants. Il a commencé par la Sainte Famille. On ne peut pas aller beaucoup plus loin dans l'ordre de la famille. Donc, c'est bien le parfait. Et c'est vrai, dans l'ordre de la grâce, c'est toujours l'ordre du parfait. Tandis que dans l'ordre de la nature, c'est différent. On passe de l'imparfait vers le parfait. C'est le conditionnement humain, ça. Réponse de saint Thomas. Le parfait précède l'imparfait dans l'ordre du temps et de la nature, lorsqu'il s'agit de réalités diverses. L'être imparfait suppose en effet l'être parfait pour le mener à son achèvement. Nous connaissons ça. Ça vient d'Aristote, le livre Theta sur l'acte. Est-ce que l'acte est antérieur à la puissance ? Vous savez la réponse d'Aristote. Hein ? C'est ce que saint Thomas reprend ici. Le parfait, donc l'acte, précède la puissance, l'imparfait, dans l'ordre du temps, de la nature, lorsqu'il s'agit de réalités diverses. L'être imparfait suppose, en effet, l'être parfait, pour le mener à son achèvement. L'imparfait ne pourrait pas être mené à l'achèvement s'il n'y avait pas l'être parfait avant. Mais, dans une seule et même réalité, ce que dit Aristote, oui, c'est textuellement, mais dans une seule et même réalité, l'imparfait, bien que postérieur en nature, est antérieur temporellement. Pour nous, nous sommes nés dans le berceau, nous n'étions pas encore parfaits. Nous sommes peut-être un peu plus parfaits maintenant. Il faut l'espérer. Et plus on s'approche du terme, plus c'est parfait. normalement, chaque jour nous permet d'atteindre quelque chose d'un peu plus parfait, d'être victorieux à l'égard de notre conditionnement. Ainsi, par rapport à l'imperfection de la nature humaine, la perfection éternelle de Dieu est antérieure en durée, mais l'achèvement de cette même nature par l'union à Dieu est postérieur. Alors c'est très curieux cette transposition, c'est intéressant, vous voyez, la manière dont saint Thomas utilise ce que Aristote dit à propos de l'antériorité de l'acte sur la puissance. Saint Thomas transpose, hein, en théologien, c'est une transposition analogique merveilleuse. L'antériorité de l'acte sur la puissance, c'est l'éternité par rapport au temps. C'est assez joli ça. Le temps présuppose éternité. Et l'éternité, c'est la perfection. C'est la plénitude. C'est l'acte pur. C'est Dieu. Alors, tout le temps doit se comprendre en fonction de cela. Et le développement du temps, alors, peut se faire qu'on passe de l'imparfait vers le parfait. Parce que Dieu respecte le conditionnement de sa créature. Bon, je n'insiste pas plus, hein, si vous avez des questions, vous les écrirez pour qu'on puisse les voir. L'article 6, convenait-il que l'incarnation fût différée jusqu'à la fin du monde? Alors la fin du monde, la fin des temps, vous voyez, la plénitude du temps, toutes ces expressions qui sont importantes à voir. Alors, première objection, il est écrit dans les psaumes, « Je manifesterai la miséricorde de mon cœur dans ma vieillesse », c'est-à-dire, d'après la glose, à la fin des temps. Mais l'incarnation est par excellence le temps de la miséricorde. Il convenait donc qu'il eût lieu à la fin du monde. Donc, on s'appuie sur le psaume 91, verset 11. « Senectus mea in misericordia oberi ». Donc, c'est à la fin que se manifeste la plus grande miséricorde. Si c'est à la fin que se manifeste la plus grande miséricorde, Dieu apparaît non plus comme un père, mais comme un grand-père à la fin. Donc c'est la plus grande des miséricordes. Et donc il faut que l'incarnation arrive à la fin. Réponse. Il est écrit dans Habacuc, tu apparaîtras au milieu des temps. Le mystère de l'incarnation que devait révéler le Christ au monde ne pouvait donc pas être différé jusqu'à la fin. Ne prenez pas matériellement Habacuc. In medio annorum notum facies. In medio. Ça dépend comment on compte. Que le immédiat ici, c'est l'acmé. Hein? Parce que immédiat peut être l'acmé, peut être le sommet. Donc, pour rejoindre la plénitude des temps. C'est ça qui est très, très difficile. Hein? Immédiat stat virtus, c'est-à-dire au sommet. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Les mathématiques ne sont pas divines. Hein? N'oubliez pas ça. Quand il s'agit de Dieu, les mathématiques ne sont pas divines. Dieu n'est Dieu. L'arithmétique n'est pas divine. Elle est humaine. Alors il faut faire un petit peu attention. Quand on commence les chiffres, c'est toujours, toujours second. C'est jamais premier dans la perspective de la sagesse de Dieu. S'il ne convenait pas que l'incarnation eût lieu dès le principe, il n'était pas davantage opportun qu'elle fût reportée jusqu'à la fin du monde. Et cela apparaît dès l'abord quand on considère l'union de la nature divine et de la nature humaine. Nous avons déjà dit qu'en un sens, l'imparfait précède temporellement le parfait, et en un autre sens, le suit dans une réalité qui progresse. L'imparfait précède le parfait. Dans une réalité qui est cause du progrès, le parfait, au contraire, précède l'imparfait. C'est très beau, encore une fois, la manière dont saint Thomas interprète Aristote, vous voyez ? Parce que c'est vraiment une interprétation d'Aristote, mais alors en théologien. C'est une interprétation. Et alors, vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose, pas la même précision. C'est toujours la même. Parce que saint Thomas transpose Aristote toujours avec le pos. On n'est pas en métaphysique. On est en théologien. On est en théologie. Donc, en théologie, la précision n'est pas la même. Et la précision est moindre. Puisqu'on est au niveau du pos, du comment. On n'est pas au niveau des principes. Et quand on veut trouver en théologie la précision métaphysique, on fait erreur. Puisqu'on ne sait pas le quid de Dieu. On ne sait que le quomodo. Et c'est ce qui fait que c'est si gênant, hein, quand on est habitué à la métaphysique, si gênant à la théologie. Ça nous oblige de nous maintenir toujours dans l'humilité. Dans l'humilité de la révélation. C'est constamment, vous voyez, c'est très curieux, parce que c'est intéressant d'avoir ça. Nous avons vu, nous avons déjà dit qu'en un sens, l'imparfait précède temporellement le parfait, et en un autre sens, le suit. Dans une réalité qui progresse, l'imparfait précède le parfait. Dans une réalité qui est cause de progrès, le parfait au contraire précède l'imparfait. Ces deux points de vue s'allient dans l'œuvre de l'incarnation. La nature humaine, en effet, dans l'incarnation, est portée au suprême degré d'excellence. Aussi ne convenait-il pas que par le Verbe, que le Verbe se fit homme dès l'origine. Mais d'autre part, le Verbe incarné est cause efficiente de perfection humaine, puisque, comme le dit saint Jean, nous recevons tous de sa plénitude. Il ne se pouvait donc pas que l'incarnation fût différée jusqu'à la fin du monde. Ce qui se produit à la fin des temps, ce sera la consommation de la gloire à laquelle le Verbe incarné doit conduire la nature humaine. Vous voyez les deux raisons qui militent. Alors, comme les deux raisons militent, on est devant quelque chose qui n'est plus simple. Tout dépend si vous insistez plus sur un point ou si vous insistez davantage sur l'autre. Et c'est tout le procédé de l'espérance eschatologique, ça. Et l'interprétation des signes, elle est donnée par là. Saint Thomas essaie de préciser là, autant qu'on peut le faire, le plus qu'on peut faire. La raison, c'était pas normal, c'était pas convenable que l'incarnation arrive tout de suite au début, à cause même de sa perfection. Et parce qu'elle est cause, il n'était pas convenable qu'elle arrive à la fin. Parce que normalement, une cause doit avoir un rayonnement. Une cause de fécondité doit avoir un rayonnement. Donc, il faut qu'on puisse voir tout le rayonnement de l'incarnation, tous les effets de l'incarnation. Parce que l'incarnation n'est pas la consommation. La consommation, c'est l'avenue en gloire. Alors, celle-là, elle arrive au terme. Vous voyez, c'est très curieux. Hein, vous jouez sur les trois choses, hein, si vous êtes attentif. Vous voyez l'incarnation, le point de vue de la rédemption et le point de vue du retour en gloire. Et les trois raisons, là, nous permettent de ponctuer autant qu'on peut, dans une théologie de l'économie divine, le pourquoi de la venue du Christ à ce moment. Alors, l'incarnation, oui, c'est le Verbe qui pousse par l'incarnation, la nature humaine atteint un sommet qu'elle ne pourra jamais dépasser. C'est pour ça qu'il ne peut plus y avoir d'évolution. C'est ça qui montre que l'évolution prise au sens absolu, non, l'incarnation montre qu'au milieu des temps, du moins, à un moment donné, la nature humaine a connu un sommet. Et ça, c'est la faiblesse de Teilhard. Il n'a pas vu assez que l'incarnation, que la nature humaine dans le Christ, atteint un sommet. Alors, ce sommet, cet acmé, il ne pouvait pas être immédiatement après la faute. Il ne pouvait pas être dès le commencement. Pourquoi ? Parce que Dieu a voulu que la nature humaine connaisse un certain progrès. Ça fait partie de la nature humaine. Ça fait partie de la conception de Dieu sur la nature humaine. C'est la différence avec les anges. Les anges sont tout de suite créés dans la perfection, pas l'homme. Et bien, les anges sont créés dans la perfection. En tant que créature, ils auront un temps d'épreuve. Et donc, ils ne sont pas tout de suite dans la gloire. Ils ont un temps d'épreuve. L'homme est créé par Dieu comme esprit pour un temps d'épreuve. Il faut ce temps d'épreuve. Ce temps d'épreuve est nécessaire. On ne peut pas le télescoper, c'est impossible. Donc l'incarnation ne pouvait pas arriver dès le début. Le mystère de la rédemption montre qu'il est source de salut. Et à cause de ça, il ne pouvait pas arriver à la fin. Parce qu'il faut qu'on voit les effets. Il faut que se manifestent les effets de la rédemption. Parce que par la rédemption, il est source de salut. Et donc il ne peut pas. Et alors, parce que la gloire arrive, elle, à la fin des temps. Oui, ponctué, incarnation, rédemption, gloire. C'est très nettement ponctué ici, dans saint Thomas. Et ça nous aide à comprendre le pourquoi, autant qu'on peut le saisir. Autant qu'on peut le saisir. Hein. Le pourquoi de l'incarnation à ce temps. Donc, ces deux points de vue, je reprends, ces deux points de vue s'allient dans l'œuvre de l'incarnation. La nature humaine, en effet, dans l'incarnation, est portée au suprême degré d'excellence. Aussi ne convenait-il pas que le Verbe se fît homme dès l'origine.